Bonjour Didier Pilon, je suis heureux de vous retrouver dans les studios de Radio Fidélité en compagnie de Mathieu Ordonneau à la technique pour que nous passions une heure ensemble autour de chefs-d'œuvre musicaux et en particulier de deux concertos, je devrais dire concerti si j'étais un puriste, mais deux concertos de Mozart. Mozart a écrit un nombre incroyable de concertos, plus de 50, hein. On compte déjà les 27 pour piano, on compte les 4 pour cor, on compte les 5 pour violon, on compte les 3 pour flûte, enfin si j'additionnais tout, on arrive à plus de 50 concertos, ce qui est énorme, et des symphonies concertantes aussi. Là, j'ai choisi aujourd'hui de vous en proposer deux. Un, je dirais, parmi les plus achevés, les plus aboutis de Mozart, c'est le double concerto pour flûte et harpe, et puis un autre qui est plus anecdotique, mais qui montre bien la curiosité de Mozart, la capacité à s'adapter à tous les instruments, puisqu'on entendra son concerto pour basson et orchestre. C'est assez rare, il y a très très peu de concertos pour les bassons, parce que c'est un instrument, bah, vous savez, c'est cette espèce de grande pipe noire là qui fait souvent des et il faut s'appeler Mozart pour être capable d'écrire un concerto comme nous allons l'entendre. Mais revenons, si vous le voulez bien, au fameux double concerto pour flûte et harpe de Mozart. Mozart, à l'époque, est très jeune, il a encore 22 ans, il est à Paris, il espère devenir la nouvelle coqueluche française. Il va malheureusement ne pas réussir son pari. Et quand il décide donc de s'installer à Paris en 1778, ça ne se passe pas très bien. Il avait eu beaucoup de succès dans ses passages précédents à Paris lorsqu'il était enfant. Tout le monde voulait s'arracher le petit Mozart, tous les nobles l'invitaient à dîner, etc., à faire des concerts. Le gamin, il adorait jouer devant le public. Mais lorsque Mozart revient, il a 22 ans, il ne supporte plus le prince archevêque Colloredo à Salzbourg et il veut donc trouver un emploi fixe. Mais malheureusement, eh bien, il ne va pas trouver parce que la noblesse française, il faut bien le dire, n'est pas du tout attachée à la musique. Et comme va l'écrire Mozart dans une de ses lettres, les Français ne sont que des brutes et des imbéciles en parlant de musique. Et donc, il va aller de déconvenu en déconvenu. Imaginez qu'on va faire jouer Mozart sur des pianos désaccordés. Faux. Alors il va dire, mais attendez, madame la marquise, votre piano n'est pas très juste. Oui, écoutez, Mozart, c'est vous le musicien, sous-entendu, débrouillez-vous. Ou une autre fois, il y a un comte également qui lui a demandé de venir à 15h. Il va arriver qu'à 17h, 17h30, parce que monsieur le comte est allé à la chasse. Il avait oublié qu'il avait demandé à Mozart de venir. Le pauvre, lui, il a froid dans le couloir. Il a très, très froid aux mains. Et il ne peut pas jouer immédiatement quand le comte enlève ses bottes. Il dit, allez-y, jouez Mozart. Donc vous comprenez bien que ça ne peut pas bien se passer. Ça se passe d'autant plus mal que la maman de Mozart, qui l'avait accompagné, alors que Mozart rêvait de partir tout seul, mais le papa, il avait dit, puisque je ne peux pas l'accompagner moi de Salzbourg, il vaut mieux que toi maman, tu l'accompagnes. Et le jeune Mozart, avoir sa mère à côté de lui, c'était une corvée, si bien que la pauvre femme, elle ne va jamais le voir, elle va écrire une lettre où elle va dire, si ça continue, je vais perdre l'usage de la parole. Et bien la pauvre femme, c'est mieux, elle va perdre l'usage de la vie, puisqu'elle va mourir à Paris en 1778. Mozart va écrire à son père, qui va lui demander à ce moment-là, immédiatement, de rentrer. Ce que Mozart va faire à contre-cœur, parce qu'il n'a vraiment pas envie de retrouver le prince archevêque, il n'a pas envie de devenir le soutien de famille de son papa veuf et de sa sœur, et donc ça va être très compliqué pour lui, mais il retournera à Salzbourg en 1779 et il y fera une grosse déprime. Mais en attendant, le séjour parisien est quand même une certaine réussite d'un point de vue musical. Il va écrire une très belle symphonie, la symphonie dite parisienne qu'on lui avait commandée. Il va écrire différentes œuvres, un ballet, Les Petits Riens, et il va écrire justement ce magnifique concerto pour flûte et harpe que nous allons entendre, qui lui a été commandé par un personnage extrêmement important qui est le duc de Guines, qui jouait de la flûte et qui avait une fille harpiste. C'est comme ça qu'il demande à Mozart, il lui commande un concerto pour deux instruments qui ne dialoguent pas facilement ensemble. Autant la flûte, elle est bruyante, elle est stridente, elle est aiguë. Autant la harpe, c'est un instrument qui est fragile, avec des cordes pincées, ça vibre. Et il faut tout le génie de Mozart. Et j'insiste vraiment là sur le génie de Mozart pour faire dialoguer ensemble deux instruments qui sont presque opposés de par leur force et leur spectre sonore, avec un seul et même orchestre. D'ailleurs, dans l'histoire de la musique, il n'y a qu'un double concerto pour flûte et harpe. Il n'y en a pas d'autre. Il faut s'appeler Mozart pour pouvoir le composer. Alors tout de suite, sans plus attendre, je vous propose de découvrir ce magnifique concerto, écrit donc, je vous le rappelle, à Paris en 1778, le concerto pour flûte, harpe et orchestre, Kechel 299. Thank you. Entendre le premier mouvement du concerto double pour flûte, harpe et orchestre de Mozart avec Jack Zorn à la flûte et Laetitia Belmondo à la harpe. Et je vous rappelle que c'est un concerto que nous allons entendre en entier. On sait qu'il a été joué pour la première fois à Paris pour le fameux duc de Guine. C'était en mai 1778 quand Mozart n'avait que 22 ans et qu'il espérait bien sûr conquérir Paris, ce qu'il ne va pas, je vous l'ai déjà dit, réussir à faire. C'est un concerto qui comporte traditionnellement trois mouvements. On vient d'entendre le concerto, le premier mouvement, l'Allegro, avec de longs dialogues, vous l'avez entendu, entre les solistes et l'orchestre. Et puis il va y avoir ensuite le deuxième deuxième mouvement qui est peut-être pour moi le plus poétique, le plus beau, le plus doux, le plus reposé, cet Andantino qui comporte 118 mesures et qui permet d'entendre un très beau thème qui va être exposé, vous allez l'entendre d'abord par les cordes et qui ensuite va être repris alternativement, si je puis dire, puis ensemble par la flûte et le harpe. Et puis on enchaînera, si vous le voulez bien, avec le troisième mouvement, qui est un rondo, qui est plus long, 392 mesures. Et là, on sent que Mozart a parfaitement compris qu'il est à Paris, qu'il faut bien sûr plaire à tout le monde. Et c'est comme ça qu'il va utiliser une danse française qu'on appelle une gavotte et qui va permettre comme ça de montrer que Mozart a compris la musique française et qu'il rend hommage finalement à la musique. Et ce qui est très intéressant, c'est que Mozart a parfaitement compris aussi comment fonctionne la harpe. Je rappelle que Mozart, il a une qualité que peu de compositeurs ont, il a la fameuse oreille absolue. Ça lui permet surtout de bien comprendre comment fonctionnent les instruments. Même s'il ne sait pas en jouer, il sait quelles sont les possibilités que peut offrir une harpe et les limites également de l'instrument. Et c'est pour ça qu'il va véritablement parfaitement utiliser l'instrument qui n'a pas encore à l'époque tout le système de pédales. Si vous connaissez un peu les concerts classiques, les harpistes jouent évidemment prioritairement avec les mains, mais aussi avec les pédales, parce qu'il y a, des pédales qui leur permettent justement de changer en quelque sorte les notes, les gammes. Et par conséquent, c'est plus compliqué à l'époque, parce que il n'y avait pas tout ce système. Mais Mozart va parfaitement l'utiliser. Il n'écrira, hélas, qu'un seul concerto pour flûte et harpe, mais il écrira ensuite pour la flûte, parce qu'il écrira également d'autres concertos pour flûte et orchestre, des quatuors, etc., qui montrent à quel point Mozart aimait tous les instruments. Et en particulier, je vous l'ai dit, cette gageure de faire chanter ensemble la flûte et l'harpe. Donc tout de suite, je vous propose de retrouver les deux derniers mouvements, le mouvement lent et le mouvement rapide, du concerto pour flûte, harpe et orchestre de Mozart.
Thank you. Thank you.
Entendre dans son intégralité les trois mouvements qui composent le concerto de Mozart pour flûte, harpe et orchestre, qui porte le Kechel 299, donc soit dit au passage, le Kechel, c'est le docteur qui portait ce nom-là, qui a remis de l'ordre dans les partitions de Mozart, et donc on va dire que ce concerto, c'est la 299e œuvre de Mozart. Vous vous rendez compte, 300 heures et il n'a que 22 ans. Et donc c'est une très belle œuvre qui nous a permis d'entendre à la fois l'orchestre de chambre de Mozart, sous la direction de Claudio Abbado, avec comme soliste Jacques Zone à la flûte et Laetitia Belmondo, je ne sais pas si elle a un lien de famille avec l'acteur, mais je ne crois pas, pour la harpe. Et nous allons, comme nous avons encore du temps, et que vous prenez peut-être cette émission en cours sur Radio Fidélité, eh bien en compagnie de Mathieu Ordonneau, j'ai choisi de vous présenter deux concerti de Mozart. On vient d'entendre la flûte et l'harpe, qui sont quand même des instruments qu'on entend souvent. Et bien là, on va entendre un instrument qui, lui, l'est beaucoup moins, puisqu'il s'agit du basson. Ce basson, c'est un instrument avant, avec une hanche, hein, on souffle. Vous voyez, c'est cette espèce de grande pipe noire. Et malheureusement, nous avons perdu la guerre, nous les Français, contre les Allemands. Parce qu'il y a deux écoles qui se disputaient. Il y avait le basson à la française et il y avait le fagot allemand. C'est pas les mêmes clés pour les instrumentistes, c'est pas tout à fait le même instrument, mais la sonorité, je dirais, est quasiment la même. On n'est pas capable de faire une différence, sauf si on est un spécialiste, entre le basson français et le fagot allemand. Mais nous avons perdu la guerre parce qu'aujourd'hui, eh bien, la quasi-totalité des solistes et des orchestres utilisent non pas le basson français, mais malheureusement le fagot allemand. Donc aujourd'hui, la fabrication de cet instrument se fait essentiellement en Allemagne, et c'est véritablement dommage. Mais du temps de Mozart, on utilise beaucoup le basson pour faire justement cette richesse harmonique. Ça rend des graves très sonores, et Mozart, on le sait, adorait les instruments avant. Si pour Mozart, le violon représente le boulot, c'est les commandes du prince archevêque. Si le piano représente pour lui son intimité, Mozart adorait bien sûr les concertos pour piano puisqu'il les jouait lui-même. Mais on peut dire que les concertos pour instruments avant, bah c'est son plaisir. Il adore les instruments avant, Mozart. Il en joue, il adore ça. Et donc, il les fait tous chanter. Et ce concerto, qui est très rare, eh bien, est une œuvre là encore aussi de commande. Mozart était encore plus jeune puisqu'il avait, il avait 4 ans de moins, donc il avait à peine 16 ans lorsqu'il écrit ce concerto en juin 1774 pour finalement un bassoniste qui était virtuose, qui eh bien, lui avait commandé cette œuvre. Et on peut dire eh bien, que c'est un instrument, encore une fois, tout à fait étonnant. Et on peut remercier ce musicien d'avoir demandé à Mozart de lui écrire un concerto. Et c'est là où on voit, j'insiste vraiment, tout le génie de Mozart pour être capable de faire chanter cet instrument comme s'il avait énormément de possibilités. Or, on va dire quand même que le basson, à la fois dans la tessiture, dans les gammes, etc., est assez limité comme instrument. Mais là, on n'a pas l'impression du tout que c'est un instrument limité. Il y a une cantilène qui est absolument merveilleuse. Vous allez l'entendre notamment au deuxième mouvement. Mais c'est vraiment quelque chose de très, très beau. Et je vous propose donc de découvrir tout de suite cette bouffée d'air frais, comme disait Einstein lorsqu'il entendait ce concerto de Mozart. Eh bien, on va prendre justement nous aussi une bouffée d'air frais en écoutant donc pour l'instant le premier mouvement du concerto pour basson et orchestre en si bémol majeur, qui porte le Kechel 191, c'est-à-dire qu'il y avait quasiment 100 œuvres entre le basson qu'on vient d'entendre et le concerto pour flûte et harpe qu'on a écouté. Donc, 191e œuvre de Mozart, on écoute tout de suite le très bel Allegro, puisque les concertos, c'est toujours trois mouvements, je vais y revenir. Le premier mouvement rapide Allegro du concerto pour basson et orchestre en si bémol majeur de Mozart. Thank you. L'Allegro, qui est le premier mouvement de ce concerto pour cet instrument qu'on n'entend pas souvent en soliste, qu'on appelle le basson, grâce encore une fois au génie de Mozart. Je vous précise aussi que le concerto à l'époque, c'est toujours un dialogue hein, entre l'orchestre et un instrument. Ça comporte en général trois mouvements, c'est toujours le même schéma si je puis dire. Un mouvement rapide d'abord qu'on appelle Allegro, puis ensuite un andante, un adagio, bref un mouvement assez lent pour faire plutôt chanter l'instrument. On va l'entendre d'ailleurs, le basson parfaitement chanté. Et puis d'ailleurs c'est le canard dans dans beaucoup de dessins animés, le basson. Et puis on terminera par ce rondo qui est un menu finalement, tel que Mozart l'a écrit. Et là, ce qui est intéressant, c'est que dans ce concerto pour basson, vous allez voir la partie lente, C'est presque la plus longue, mais je trouve que c'est mérité parce que là, on a vraiment, non pas de la virtuosité de la part de l'instrument, mais véritablement son chant le plus pur. Donc je vous propose d'écouter le l'andante et le rondo, c'est-à-dire le menuet, du concerto pour bassin et orchestre en si bémol majeur de Mozart. Je vous précise que le soliste, c'est Günther Piesk qui est au basson, et c'est l'Orchestre Philharmonique de Berlin, s'il vous plaît, dirigé par Karajan, qui nous propose la conclusion de ce très beau concerto.
Thank you.
Vous avez entendu dans son intégralité le concerto pour basson et orchestre Kechel 191 en si bémol majeur de Wolfgang Amadeus Mozart. C'était Gunter Pisk au basson, l'Orchestre Philharmonique de Berlin placé sous la direction de Karajan, et ça vous a donné comme ça l'occasion, avec plaisir j'espère, d'entendre deux magnifiques concertos pour instruments de Mozart, le flûte et harpe et le basson. On se retrouve bien sûr très vite avec Mathieu Ordonneau pour une nouvelle émission autour de la musique classique.